Actu SF, les podcasts.
Bon après-midi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous ce Magic Mirror Idolize pour parler histoire avec un grand H d'une certaine manière, puisque nous aurons à notre table un historien et puis des romancières qui vont évoquer leurs ouvrages, les différentes périodes historiques qu'elles ont traitées. Et puis on va voir un peu ce qu'en pense notre historien qui finalement va être un peu mon bras droit dans cette affaire avec un regard un petit peu différent. On va voyager beaucoup, on va partir de la guerre de 14, puisque nous avons la chance d'avoir sur cette table ronde Isabelle Fournier et Daniel Martinigol qui ont reçu hier soir le prix Imaginal des écoliers pour leur roman. Et vous allez tout simplement peut-être toutes les deux nous expliquer comment est né ce roman, ce dernier bleuet, et comment vous avez un peu réparti les tâches, puisque pour Isabelle c'est une expérience nouvelle, alors que Daniel est une romancière chevronnée. Je vais essayer de dire ça élégamment, Daniel, promis. Romancière chevronnée. Comment avez-vous réparti vos tâches?
On répond tout de suite.
Oh,
je
oui.
Croyais que vous alliez présenter.
Non.
Bon, d'accord. En fait, moi j'ai écrit des romans historiques sur le thème du Moyen-Âge par l'intermédiaire du château de Guédelon, qui est un château en train de se construire, un château fort en train de se construire avec les techniques du XIIIe siècle au nord de la Bourgogne, dans l'Yonne, dans une petite commune qui s'appelle Trégny, qui sature complètement maintenant du nombre de visiteurs qui viennent voir le château de Guédelon, puisque ça fait 2 ou 3 ans de suite qu'ils ont entre 350 000 et 380 000 visiteurs dans l'année. Une année d'ailleurs assez écourtée, puisqu'ils ne travaillent pas pendant l'hiver. Hein. Ils ouvrent au mois de mars, ils ferment à fin octobre. Et j'avais travaillé avec les éditions ActuSF. Jérôme Vincent m'avait fait confiance pour ouvrir un nouveau segment dans sa maison d'édition consacré à la jeunesse. Les éditions ActuSF, qui sont partenaires des Imaginales, et
juste à l'entrée de la bulle.
Voilà, dont on voit le stand juste à l'entrée de la bulle du livre, sont spécialisés dans l'imaginaire depuis fort longtemps, mais n'avaient pas de rayon jeunesse, n'avaient pas de section jeunesse. Alors, c'est vrai que la vieille routière de l'imaginaire que je suis...
Je n'ai pas osé formuler ça comme ça.
avait été sollicité par Jérôme quand je lui avais parlé des liens que j'avais avec le château de Guédelon. Et puis, nous avons fait une table ronde ici, il y a 3 ans, sur un thème semblable, liant l'histoire et l'imaginaire. Et Isabelle était assise à côté de moi et présentait, donc, elle en parlera bien mieux que moi, le projet c'est même pas le projet, c'était déjà réalisé, d'un petit livret intitulé La mission du poilu, en liaison avec ce qu'elle fait. Et donc à la fin de cette table ronde, elle est allée voir Jérôme Vincent en lui disant: mais ce serait bien si nous on avait quelque chose de semblable, est-ce que vous pensez que Daniel Martinigol aimerait écrire un roman sur la guerre de 14. Donc Jérôme s'est passé donc par l'éditeur. Jérôme m'a parlé de ça. J'ai dit: oula, moi c'est que je suis en train de manger du Moyen-Âge à haute dose. Là, d'un seul coup, la période 14-18 est bien différente. Et il m'a dit: oui, mais ça serait intéressant parce que Isabelle Fournier a déjà une énorme documentation historique. Donc j'ai dit: alors à ce moment-là, je veux bien la rencontrer. Eh bien si, continue, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors Isabelle, parce que, précisons-le, vous n'êtes pas écrivain à l'origine.
Non, pas du tout. Moi je suis enseignante en école élémentaire, et donc à côté j'avais ce projet-là de faire visiter le champ de bataille, enfin de préparer des sorties historiques pour les enfants.
Et, à Verdun.
À Verdun, voilà. Ça c'est le premier projet à Verdun. Et du coup, on s'est rapproché de Jérôme, et puis il nous a mis en lien avec Daniel. J'avais fait mes devoirs pendant toutes les vacances. J'avais préparé la bible des personnages, la trame scénaristique, tout ça. Et puis donc je l'ai soumise à Daniel, qui a accepté de venir chez nous à Verdun pendant une petite semaine. Et puis elle a visité le champ de bataille gentiment, comme une bonne élève, elle a rempli son petit cahier. Sauf qu'à la fin, elle m'a mis le couteau sous la gorge en me disant « Écoute, ma cocotte, c'est toi qui vas le faire. » Et je pense que j'ai dû avaler de travers. Je m'attendais pas. Et finalement, c'était le cap ou pas cap, on l'a fait toutes les deux. Et puis, on a bien fait parce que...
Ça donne ce joli
c'est
roman.
C'est une jolie aventure, très jolie aventure.
Alors justement, et là, je vais peut-être me tourner vers Laurent Lietzenberger pour avoir le regard de l'historien. C'est un roman pour un jeune public, et on comprend mieux puisque Isabelle travaille pour des primaires. Hein. C'est une manière de faire découvrir... de façon peut-être un peu moins, un peu plus ludique, on va dire, cette période de la guerre de 14 à de jeunes lecteurs. Qu'en avez-vous pensé ? Quel est votre regard sur ce genre d'initiative ?
Eh ben, je trouve que c'est une initiative excellente pour décloisonner un peu l'approche habituelle de l'histoire qui est très très formelle dans les programmes scolaires. Alors moi j'avais une question à vous poser en fait sur la façon dont vous avez construit des personnages. Vous aviez un matériau historique important pour préparer les visites des champs de bataille et vous avez puisé dans ce matériau pour écrire la Bible des personnages, vous vous êtes inspiré de témoignages de l'époque ou alors c'est de la pure fiction adossée à une trame chronologique historique.
Alors en fait les personnages, les trois petits héros qui sont sur la première de couverture existaient déjà puisque le livre pédagogique avec lequel les enfants travaillent... Donc le guide pédagogique en fait présente déjà ces trois personnages là parce que les enfants quand ils travaillent on avait envie qu'ils soient accompagnés par des petits personnages fictifs, donc cela existait déjà. Et puis ensuite c'est les personnages qu'ils rencontrent à l'intérieur du livre, c'est vraiment des personnes qui ont existé, qu'on a trouvé que j'ai trouvé au fil de mes recherches historiques. D'ailleurs c'était très marrant parce que quand on travaille avec l'histoire, enfin c'est ma façon d'aborder les choses, quand on travaille avec l'histoire et qu'on a le souci du détail, ça représente énormément de contraintes, mais plus on a de contraintes et plus on arrive à jouer avec. Et c'est vrai que tous les personnages du roman existent pour de vrai.
Je précise même qu'on croise brièvement le colonel Drian qui aurait toute sa place aux Imaginales puisque il a été lui-même auteur d'anticipation et de science-fiction en son temps sous le nom de d'Henri. Donc voilà, il y a aussi ce petit clin d'œil là que l'on peut remarquer. Laurent, vous vouliez...
Oui, au niveau du matériau original que vous avez utilisé, je suppose que vous avez puisé dans tout ce qui est lettres de poilu, témoignages de ce qui s'est passé dans les tranchées. Vous avez trouvé des journaux personnels ou familiaux aussi ?
Alors déjà, pour construire la trame scénaristique de roman, on s'est basé sur le carnet de route du 165e régiment d'infanterie qui passait aux endroits qui nous intéressaient, donc ça tombait très très bien. Et puis ensuite, moi j'ai passé plusieurs jours dans des archives, enfin consulté tout un tas d'ouvrages. Et puis c'était aussi vaste que l'enfance pendant la guerre, enfin, tout un tas de thèmes comme ça dont j'avais besoin.
On va juste préciser, parce qu'on ne l'a pas dit, mais pour les gens qui n'auraient pas encore lu le livre, les trois petits personnages que l'on suit sont des personnages contemporains, et même l'un d'entre eux, on va le voir, c'est son personnage adulte, on va dire, hein, puisque il vient de notre futur, pour le coup, et ils vont être plongés dans ce passé d'un siècle en arrière, dans cette période délicate de la Première Guerre mondiale, en plus pas dans le coin où c'était le plus calme. Et donc c'est comme ça qu'on va les suivre dans une épopée qui va finalement retracer... l'histoire de ces 5 années de guerre et même un petit peu plus puisque vous le verrez sur la fin nous sommes après l'armistice et après cette période là et vous allez voir comment ces jeunes personnages qui finalement eux-mêmes n'ont pas forcément tant de connaissances que ça sur la période vont aussi s'adapter à cette situation très étonnante. Le mélange justement, Laurent, entre la science-fiction et l'histoire, ça vous a intéressé ?
Oui, c'est intéressant. Ça permet de créer un décalage assez original en fait, pour entrer dans des thématiques qui peuvent être arides ou alors qu'on a l'impression de bien connaître déjà. Justement, du point de vue de votre plume à toutes les deux, quand vous avez écrit, vous êtes dans le contexte actuel. Donc, est-ce que vous avez projeté des attentes ou une vision sur la situation générale, locale, régionale, peu importe, mais Qu'est-ce que vous avez projeté de votre part, de vous-même, de votre vision du monde contemporaine, en fait, sur cette époque-là?
En fait, les enfants, à de nombreuses reprises, donc les enfants de notre époque, 2018-2019, se lient d'amitié avec un personnage de leur âge qui vit, lui, en 1914. Et on a projeté... on s'est nous-mêmes projeté dans ce que pouvaient dire ou penser les enfants à plusieurs reprises quand ils étaient tentés de mettre en garde leurs copains, en fait. Parce que nous, du coup, on sait ce qui s'est passé. Mais eux, ils sont au cœur du sujet. Enfin, le petit garçon Léon, qui en 1914, lui, il le sait pas. Mais nos trois héros, ils le savent. En plus, ils l'ont déjà étudié en classe. Donc, ils ont vraiment très, très envie de le mettre en garde lui aussi.
C'est là que, si j'ose dire, mon expertise du fait d'avoir déjà écrit 4 tomes des aventures à Guédelon, où les enfants d'aujourd'hui étaient projetés au XIIIe siècle, nous a été utile, parce que j'ai très vite dit à Isabelle, c'est absolument impossible, par exemple, qu'ils ne rencontrent pas quelqu'un de leur âge qui les admettra comme amis en 1914 et qui va, d'une part, leur permettre d'avoir des vêtements de l'époque, de se débarrasser de leurs baskets, etc., et de les initier un petit peu à la vie de cette époque-là pour qu'ils ne commettent quand même pas trop d'erreurs au point de se faire repérer. C'était bien pire quand j'écrivais les aventures à Guédelon, où les enfants de maintenant se retrouvaient en plein milieu du XIIIe siècle, où la langue n'était pas la même, où il y était hors de question que des enfants de notre époque s'adaptent immédiatement à la vie du Moyen-Âge. Donc, c'est pour ça que nous avons créé le personnage de Léon, qui devient ami, qui, de toute façon... Moi, je tiens absolument à ce que tous nos personnages aient toujours des réactions qui sont logiques par rapport à ce que vivrait un enfant plongé dans une situation semblable. La première chose que font mes héros quand ils arrivent au Moyen-Âge et la première chose que font les héros qui arrivent en 1914, c'est qu'ils ont peur. C'est logique. Vous avez d'un côté un espèce de petit chat magique bizarre, de l'autre côté un robot déglingué qui vous balance en l'espace de 5-6 secondes à l'autre bout du temps, dans un endroit où vous n'êtes absolument pas prévenu que vous allez arriver là. Je peux vous dire que quand les gamins quittent Guédelon pour se retrouver au milieu de la carrière au XIIIe siècle, alors qu'ils avaient un château extrêmement, finalement, sécurisant autour d'eux, avec des murailles de 2,50 m, et que là, d'un seul coup, ils sont au milieu d'une carrière vide, là, ils sont à l'intérieur du mémorial de Verdun, et 10 ou 12 secondes après, ils sont au milieu d'un champ en 1914. La première chose qu'un enfant éprouve dans une circonstance pareille, c'est la terreur. Ils sont vraiment, ils sont complètement figés de peur. Et dans les deux cas, j'ai essayé de montrer que le seul vecteur d'aspect rassurant qu'ils pouvaient avoir, c'était quelqu'un de leur âge et de leur époque. Et donc là, on a beaucoup travaillé aussi sur le relationnel qui pourrait s'installer entre des enfants de maintenant et puis des enfants du passé. Et je pense que c'est, franchement, je pense que c'est ça qui fait que les petits écoliers d'Épinal et pas mal d'autres petits écoliers ailleurs pour les aventures à Guédelon ont apprécié les romans, parce qu'ils arrivent à s'identifier parfaitement à ces personnages contemporains plongés dans l'histoire et qui découvrent finalement l'histoire en la vivant avec des jeunes de leur âge. Ça me semble assez important, surtout en littérature jeunesse. Et ça a bien fonctionné, je pense, hein, parce que nos petits lecteurs ont réussi à découvrir les événements historiques.
Ça nourrit la curiosité aussi, finalement.
Voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi que mon mari est professeur d'histoire, et que quand je lui ai parlé du projet... on avait déjà beaucoup travaillé ensemble sur le projet Guédelon, mais quand je lui ai parlé du projet d'emmener des enfants sur les champs de bataille, et non pas le chantier médiéval de 14-18, il m'a dit, alors là, si tu as pu emmener des gamins directement de Guédelon à la carrière de Guédelon au 13e, tu ne peux absolument pas mettre des enfants sur les champs de bataille. Il n'y en avait pas. Ils étaient mis à l'abri, je pense que vous confirmerez cet aspect historique. Ils étaient à l'arrière-front, etc. Donc au sens propre et figuré, finalement, du terme, ils arrivent avant ou après les batailles, dans le dernier bleuet. Alors que pour les aventures à Guédelon, ils sont beaucoup plus mêlés à l'actualité, mais pas à Guédelon, puisque Guédelon n'existait pas au Moyen-Âge. Donc pour Guédelon, c'est au château de Saint-Fargeau, qui était aussi un château fort.
On va reprendre notre voyage dans le temps et puis également dans la littérature, à plus d'un titre, puisqu'on va parler avec Silène Edgar d'Adèle, qui est une collégienne. Là, on va monter un petit peu en âge avec Adèle. Adèle, si je me souviens bien, nous approchons des vacances de la Toussaint. Et pour occuper ses vacances, elle a un professeur ou une professeure qui demande à ses élèves de lire. Et qui ne leur demande pas de lire n'importe quoi, mais un gros, gros pavé, un bon vieux classique qui est
La Reine Margot
d'Alexandre Dumas. Et puis, elle n'est pas trop chaude hein, quand même, Adèle, au départ.
Elle déteste lire. C'était très amusant de se mettre à la place d'une héroïne qui n'aime pas lire. J'aime lire depuis toute petite, hein, donc c'était drôle. Et en même temps, c'était assez facile. J'ai enseigné pendant 15 ans le français. Donc, des ados qui n'aiment pas lire, j'en ai vu une palanquée. Donc, j'avais pas trop de mal à trouver des idées.
Et là, alors, on est dans le contexte où on peut dire ce genre d'expression, la magie opère, presque ouais. Dans tous les sens du terme, puisqu'elle va se prendre de passion pour cette histoire, au point qu'elle va s'y retrouver projetée.
Oui, c'est pas un voyage dans le temps comme vous avez pu le faire, puisque Adèle, elle tombe dans le livre, en fait, dans son rêve. Elle lit, et puis quand dans son rêve, elle se retrouve aux noces de Margot. Donc c'est un rêve, voilà, hein, comme ça peut arriver à tout le monde, on lit un livre et puis on s'y retrouve, c'est un peu magique, et puis au début c'est très bien, elle a un peu peur aussi, ça c'est sûr, parce que bon, mais c'est un contexte assez agréable, elle se réveille dans une chambre, il y a d'autres jeunes filles, elle a une belle robe, c'est un peu bizarre quand même, mais quand elle ouvre les rideaux de cette petite chambre-là du Louvre en hauteur, mais ce premier rêve est très positif, très étonnant. Le problème, c'est que la nuit suivante, elle rêve de nouveau. Et d'une part, c'est assez inquiétant de rêver une deuxième fois. Elle commence à se demander un petit peu si elle n'est pas folle. Et puis, surtout, après les noces de Margot, il y a eu la Saint-Barthélemy. Donc le deuxième rêve, il est un petit peu moins marrant quand même.
C'est vrai que là aussi, on retrouve cette notion d'une histoire qui, qu'on le veuille ou non, est marquée par la violence. À Verdun, il y a quelques instants, la Saint-Barthélemy, où on sait que les rues étaient ruisselantes de sang, hein, dans les rues de Paris et sans doute d'ailleurs. Est-ce que justement, sur ce genre de roman, où là on est vraiment plongé dans le contexte d'un autre roman, il y a une espèce de mise en abîme, mais il y a aussi quand même un contexte historique présent, comment est-ce que justement on met en place ce contexte historique pour des lecteurs qui n'auraient peut-être pas forcément toutes les clés, comment est-ce qu'on explique ce qu'est la Saint-Barthélemy par exemple?
Alors le fait de choisir une adolescente qui elle-même ne sait pas permet, c'est un artifice littéraire, de lui faire se poser un certain nombre de questions, voire poser un certain nombre de questions qui la étonnent évidemment les gens de l'époque, mais on n'oublie pas, c'est un rêve dans lequel elle est dans un livre. Elle ne se retrouve pas dans l'histoire, elle est dans une histoire. Et donc elle s'interroge, elle fait des recherches, entre chaque rêve, en fait, elle se pose des questions sur ce qu'elle a pu voir. Elle ne sait pas ce que c'est un protestant. Comme elle ne lit pas beaucoup, elle n'est pas très très cultivée encore, et du coup elle cherche des informations là-dessus, et puis elle se met à chercher voilà, ce que c'est la Saint-Barthélemy, ce qui s'est passé. Elle va voir au cinéma La Princesse de Montpensier, et donc elle comprend un petit peu plus l'époque aussi. D'ailleurs c'est extrêmement violent, enfin, c'est un film qui n'est pas spécialement pour les jeunes filles de 13 ans, parce que ça, et en même temps c'est édifiant, je pense que ça leur apprend un petit peu l'histoire et de belles manières. Et donc dans cette découverte parcellaire et toujours avec l'aspect littéraire, elle apporte aussi des incohérences.
Tu m'attends la perche. Ouais. Laurent Lichtenberger, quand vous voyez une adolescente de 2000 et quelques donner des leçons d'anatomie à Ambroise Paré, est-ce que vous tombez en syncope?
Pas du tout.
Parce que c'est quand même une scène marquante du roman de Silène, d'avoir cette adolescente d'aujourd'hui qui, par ce procédé, se retrouve donc embarquée dans ce passé lointain, découvrir à quel point les choses ont évolué au cours des siècles, et de se retrouver capable d'expliquer à Ambroise Paré qu'il faut anesthésier son patient, que ça sera quand même un peu moins douloureux pour lui, etc. C'est quand même aussi quelque chose qui là, pour le coup, sort un peu du cadre strict d'un récit historique.
Alors, pour aller un peu dans la même direction, je me pose une question, c'est dans la construction de vos romans, en fait, on a souvent une vision de l'histoire qui est un petit peu aride, un enchaînement de faits chronologiques, des grandes thématiques économiques, politiques, etc. Dans quelle mesure, en fait, vous essayez de donner corps, chair, en fait, à l'histoire à travers vos personnages?
En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est si je fais des romans historiques, parce que Adèle est un des quatre romans historiques pour la jeunesse que j'ai fait avec 14-14, 42 jours et Les Lettres volées. Dans chacun d'eux, je me demande comment un événement très important de notre histoire, et je pense que cette guerre civile est un événement fondateur aussi de notre histoire, peut encore parler aujourd'hui. Donc, donner corps, c'est aussi, par le biais du livre, essayer de dire pourquoi ça nous concerne encore. Pourquoi ce n'est pas si aride que ça, finalement, parce qu'on peut y retrouver un miroir, des images, et en particulier dans Adèle, une guerre civile pour des prétextes religieux. Alors que en ce moment, et alors c'était encore plus le cas quand le livre est paru en 2015, évidemment, il y avait les attentats, il y avait du coup beaucoup de questions sur la place des musulmans en France, des confusions entre musulmans et islamistes, et de fait revenir sur un événement très lointain, mais où il y avait aussi une diabolisation des protestants d'un côté, de l'autre côté c'était les catholiques qui étaient vus comme des monstres sanguinaires. Il était un petit peu quand même pendant Saint-Barthélemy, mais ça permet de rendre la matière moins aride, surtout, et de se l'approprier, je pense, en tant que lecteur, avec des questions parfois un peu innocentes, et surtout avec ce miroir tendu sur aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais des romans historiques, pour se dire, pourquoi l'histoire est importante pour notre jeunesse. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à leur parler d'événements aussi lointains, et puis on ne peut pas tout leur apprendre, il y a des programmes, on fait des choix, donc pourquoi la Saint-Barthélemy, ça reste quelque chose d'essentiel, je pense, à donner aux enfants, leur apprendre, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Et là, la littérature a son rôle, parce que elle va permettre aussi, conjointement au travail en histoire en classe, de découvrir, de se projeter, des fois en jouant un petit peu avec la réalité. Alors, première appendicectomie au 16e, c'est pas vrai. Ça n'est pas arrivé, ça arrivait plus tard. Les gens ont continué à mourir d'appendicite pendant très longtemps, avant qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, c'était pas très, très compliqué de retirer l'appendicite et de sauver ces gens.
On viendra aussi sur un élément, c'est le fait que ce soit le choix d'Alexandre Dumas, parce que c'est important aussi. C'est que c'est pas forcément le romancier historique le plus fiable en soi, donc ça sera une question qu'on évoquera tout à l'heure, mais on va poursuivre notre voyage avec Sandrine Alexis, et nous allons partir cette fois-ci au temps des croisades, et même directement sur ces lieux, sur cette terre sainte, à l'histoire si mouvementée, et pas seulement 8 siècles en arrière, ça l'est malheureusement encore aujourd'hui, avec cet appel des 40 qui est le premier tome d'un nouveau cycle. Quel est, Sandrine, le point de départ de votre histoire, et comment est né ce projet de ce qui sera, je crois, une trilogie, hein?
Le premier volet, effectivement, c'est une trilogie, mais ça sera la trilogie orientale, puisqu'en fait l'histoire part de ce qu'on appelait à l'époque la principauté d'Antioche, donc le nord de la Syrie à peu près, et les héros vont se promener dans les montagnes du Kurdistan, au nord de l'Irak et jusqu'en Iran. Après ces trois volumes, on va revenir au moment de la troisième croisade, qui ne s'appelait pas croisade à l'époque, on n'employait pas ce terme, mais bon, on dit par commodité, où ça va se passer dans finalement ce que moi j'appellerais le monde occidental, c'est-à-dire la Syrie, la petite Arménie, et avec l'arrivée des rois européens, donc Richard et Philippe. Mais là, pour le moment, oui, c'est le volet en fait oriental. L'histoire commence à peu près au moment où Saladin va reprendre Jérusalem. Et donc, on
fin du XIIe siècle.
Oui, il reprend en octobre 187. Et le premier volet, toute l'histoire doit se dérouler obligatoirement jusqu'en 192. On comprendra pourquoi à la fin. Mais cette partie-là, j'ai tenu en fait à ce qu'elle se passe non pas dans le monde des croisades, c'est-à-dire des Européens, mais on parle de gens qui sont nés à Antioche. Donc, ce sont des Francs de Syrie. Ils sont de cette terre. Ils sont même souvent plus familiers avec les Arméniens, les Grecs, les Turcs, qu'ils combattent. Ou avec qui ils font alliance, que des Européens qui, souvent d'ailleurs, les méprisaient un peu, on les appelait les poulains, ce n'est pas un terme très très flatteur. Et c'est surtout, ça se passe dans l'Orient médiéval. C'est-à-dire que d'habitude, les romans des croisades, on part de l'Europe, on arrive en Terre Sainte, on a face à soi des Arabes, on ne mentionne pas souvent ce qu'il y a énormément de Kurdes, de Turcs, d'Aïlamis, de Persans. Et on a l'impression que l'islam s'arrête en fait à peu près à Alep, quoi. Alors que les terres califales et du sultan Seljoukide s'étendaient vraiment tout à l'est de l'Iran. Donc c'est un monde en fait qui a ses frontières extrêmes à l'Inde, et il y a une circulation comme ça. Donc ce Moyen-Orient est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine en fait. Et donc c'est une cette aventure part surtout d'un mythe soufi et d'un mythe iranien en fait qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui je trouve sont assez fantastiques à traiter.
Alors on balaye vraiment le spectre de l'imaginaire avec cette sélection, parce que nous étions partis avec la science-fiction et 1914, on a poursuivi avec le fantastique et la période de la Saint-Barthélemy. On arrive donc aux croisades avec de la fantaisie.
De la fantaisie, oui, mais de la fantaisie d'époque. C'est-à-dire que j'ai tenu à ce que ces personnages-là baignent dans un merveilleux, mais le merveilleux qui est le leur. Parce qu'à l'époque, ces chers, ces derviches qui accomplissaient des miracles, c'était tout à fait admis. Lorsqu'on doutait, c'était est-ce qu'un derviche fait vraiment ça parce que c'est un saint ou parce que c'est un magicien ? Là, on peut. Mais c'était pas. Par exemple, si j'avais voulu parler des mille et une nuits, j'aurais parlé effectivement des légendes et de la fantaisie. Mais le miraculeux, le merveilleux médiéval, c'était dans la contemporanéité des gens. Ils ne mettaient pas ça vraiment en doute. Donc, il faut plonger dans ce monde. En croyant comme eux que ça existe, pour se mettre vraiment dans la tête de personnages de la fin du XIIe siècle.
Je vais faire un petit teasing, mais on reparlera de ça dans la table ronde qui va suivre juste après, avec où sera Sandrine également et où Fabien Serruti sera. Il sera ravi d'avoir une alliée avec vous, parce que je crois qu'il est sur la même longueur d'onde sur certains points. Laurent, on est là dans un regard, ce que vient de dire Sandrine est passionnant, parce qu'on est vraiment dans un regard sensiblement différent justement du point de vue traditionnel, c'est-à-dire le point de vue occidental qui assez logiquement va être le nôtre plus naturellement. C'est quelque chose là aussi comme historien qui vous intéresse d'avoir ce changement un petit peu d'optique.
Alors, le glissement d'optique est tout à fait intéressant. Et je rebondis un peu sur ce que vous disiez sur les croyances qui étaient totalement admises. En tant qu'historien, j'ai travaillé sur des procès un peu étranges. C'était des procès d'animaux qu'on a fait jusqu'au XVIIIe siècle. On est exactement dans ce bain culturel-là. On a des croyances attachées à la culpabilité d'animaux qui seraient soit le véhicule du diable, soit qui auraient des pensées impures d'eux-mêmes. Et en très très longue durée, ces croyances-là, on les trouve, alors évidemment, en Europe occidentale, mais c'est général à toute l'histoire de l'humanité. Les matériaux de l'historien, en fait, on pratique une déconstruction, là où vous vous construisez pour incarner des événements historiques ou une morale ou des notions particulières. Nous, on part de documents qui sont déjà fictionnels, en fait, où les auteurs de l'époque, ils racontent leur vie de famille, ils donnent leur point de vue, et en fait, nous, on passe tout ça au filtre pour essayer d'en retenir quelques faits, quelques éléments. Mais notre matériau de base, finalement, il est presque romanesque. Voilà, je trouve intéressant en fait ce regard en miroir.
Oui, il y a une boucle qui se boucle finalement d'une certaine manière. Aujourd'hui, ce sont les romanciers qui reviennent un peu sur l'histoire quand vous avez déjà travaillé sur un matériel presque fictionnel. C'est assez troublant.
C'est ça. Et il y a pas mal d'historiens qui commencent à réinvestir ce champ-là en fait, justement pour bien rendre compte que les témoignages de l'époque, c'est avant tout des égaux documents. Donc ils se racontent eux et c'est leur perception qu'on trouve dans les documents plus que des faits bruts.
on pourrait l'évoquer puisque nos invités scandinaves sont là pour en témoigner. Les sagas aussi scandinaves en sont un exemple tout à fait intéressant. Je vais redonner la parole à Sandrine, donc on va rapatrier le micro, parce qu'il y a un élément intéressant aussi dans cette histoire, c'est que vous avez choisi de mettre en place une héroïne.
Oui, alors là, c'est pas... ça m'est venu comme ça, et ça aurait pu être un homme, mais c'était effectivement plus intéressant de mettre en place une héroïne. Peut-être parce que j'ai moi-même longtemps vadrouillé entre les Kurdistan, Syrie, Turquie, Irak. Et j'avais constaté que c'était beaucoup plus facile de faire ça quand on était une femme que quand on était un homme. Parce que dans les sociétés orientales, on peut facilement naviguer dans le monde clos de l'intimité familiale ou de l'extérieur si on est une femme. C'est un peu plus facile, mais c'est quand même une héroïne qui doit se déguiser beaucoup. Et à l'époque, c'est important le déguisement parce que c'est également vrai dans le Moyen-Âge occidental. Chaque personne, selon son origine, sa religion, son état, son métier, a un costume. Et donc, on voit un Turc, il a le charbouche turc. On se dit, c'est un soldat, esclave ou pas. On voit un cadi, un religieux, il va être habillé d'une certaine façon. On voit une femme franque, elle va être habillée d'une certaine façon. Alors, se déguiser, c'est changer totalement d'identité et ça permet aussi de tromper, en fait. Donc, oui, c'est une femme. C'est quelqu'un, effectivement, qui est hybride par plein d'aspects parce que elle est héritière de ces Normands qui sont partis de Normandie pour aller en Sicile et ensuite arriver en Syrie. Donc, elle est d'origine, effectivement, nordique, européenne, plutôt. Elle est née en Syrie, donc c'est une Syrienne. Et elle a été instruite par un soufi qu'on appelle Fakir, donc qui vit comme un pauvraire en fait, qui lui vient d'Iran. Et donc, de par son éducation, qui a des raisons mystérieuses qu'on va comprendre plus tard, elle-même ne sait pas trop bien finalement si elle est d'un côté ou d'un autre. Et effectivement, du coup, étant femme, c'était aussi une façon de la décaler encore plus, puisque les femmes étaient quand même considérées comme des êtres assez inférieure par beaucoup de côtés, surtout en ce qui concerne les aventures.
Et j'allais y venir, surtout elle est mariée.
Ce qui ne va pas aller.
Ça va poser quand même. Oui, non, mais ça va poser des problèmes qui ne seraient peut-être pas posés si vous aviez eu un personnage masculin.
Oui, parce que. Mais en fait, les histoires de mariage dans la Syrie franque sont assez drôles parce que à l'époque médiévale, tant qu'on n'était pas marié, c'est-à-dire une jeune pucelle, on dépendait totalement de sa famille, notamment pour le choix du mariage. Par contre, les veuves avaient une plus grande latitude parce qu'en se mariant, on quittait en fait sa famille, on arrivait dans la famille de son époux. Mais une fois qu'on était veuve, on pouvait effectivement gérer ça de façon plus ou moins autonome. Et on pouvait tricher. Et beaucoup de femmes, en fait, de princesses, en fait, de la cour d'Antioche ou de Jérusalem, ont par moments fait le choix d'épouser des chevaliers qui étaient d'un statut plus inférieur. Qui leur permettait malgré tout d'avoir une plus grande autonomie, de ne pas dépendre du clan qu'elle venait d'épouser. Donc Sibylle fait encore pire parce qu'elle épouse un roturier. Ça lui permettait d'avoir une marge de liberté.
Un Gascon au fort caractère.
Voilà.
que vous découvrirez et qui va effectivement avoir lui aussi son rôle important dans cette histoire et dans ce premier tome. On va revenir un petit peu en 14-18 avec Daniel Martin-Igol et Isabelle Fournier. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas à proprement parler de scène de bataille, puisque justement les enfants ne pouvaient pas s'y trouver, mais c'est ça qui est aussi assez amusant dans la construction du roman, c'est que c'est une vraie course-poursuite d'une certaine manière. Ils sont obligés, puisqu'ils ont la possibilité avec leur petit robot de se déplacer dans le temps et dans l'espace, et finalement... ils arrivent toujours avec un coup de retard. C'est pratiquement des joueurs d'échecs qui auraient un coup de retard sur l'adversaire.
Oui, mais on s'est débrouillé pour que ça soit le petit robot Kairos qui soit responsable de ces échecs.
C'est moche, il peut pas se défendre.
Oui. Mais c'est vrai que ce qui nous a semblé, en revanche, particulièrement utile, c'est le fait qu'il y ait un message qui s'enrichisse au fur et à mesure. À chaque bon que...
Oui, on va expliquer. Ils ont un sac et dans le sac, il y a une lettre qu'ils ont trouvée au début de leur aventure.
Oui,
et au fur et à mesure des lieux...
En fait, ils se sont donné la mission d'aller rendre à leur arrière-grand-père un petit bleuet en tissu dont ils ont en quelque sorte hérité, disons. Et ils recherchent René, leur arrière-grand-père, à travers les différents lieux où les projets de Kairos... en fonction d'un message qu'il détient et qui, à chaque bond spatio-temporel, comme vous le dites, s'enrichit d'une donnée supplémentaire. C'est un jeu de piste, en fait. C'est un jeu de piste historique. Mais ce jeu de piste, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, elle peut le préciser, correspond exactement aux étapes qu'a fait un régiment. Et donc, ça s'appuie sur une vérité historique à laquelle nous confrontons donc les enfants un peu de loin. Mais moi, je tenais absolument à ce qu'à un moment donné, nos jeunes lecteurs se rendent compte que la guerre, c'est pas simplement s'amuser à faire des bonds comme ça, à droite et à gauche avec un petit robot rigolo, mais qu'il y a vraiment du danger. Et j'ai quand même respecté ce que m'a dit mon mari, ils sont pas vraiment sur le champ de bataille, mais ils n'en sont pas loin, et ils entendent les obus tomber, ils sont terrorisés, etc. Et les enfants, l'autre jour, quand nous avons rencontré les petits écoliers qui nous ont décerné ce prix, nous ont demandé quelles étaient les scènes que nous préférions dans notre roman. Et moi, j'ai dit que j'aimais beaucoup celle-là, celle où nos héros ont peur et se rendent compte que la guerre, elle est là, juste à côté d'eux, que ça risque de tomber sur la maison où ils sont en train de s'abriter, ces énormes obus qui ont fait de cette région une région martyre. Moi, quand j'ai visité, comme disait Isabelle, j'y étais déjà passé une fois, mais très rapidement, parce que mes deux grands-pères, moi, ont fait la guerre de 14-18, et donc j'avais voulu aller voir les lieux, mais j'ai approfondi considérablement la visite des sites de la mémoire avec Isabelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement émouvant, et puis en même temps, il y a des reconstitutions sonores dans certains endroits. Quand on visite certains endroits qu'Isabelle citerait bien plus précisément que moi. Et ça marque profondément. Et je voulais que mes petits lecteurs, que nos petits lecteurs, entendent quelque part. Il n'y a jamais de bande-son dans les livres. Hein. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de montrer la réaction du héros, des personnages à un événement aussi dramatique que l'explosion des obus à un rythme absolument incroyable. Et j'ai dit que c'était une des scènes préférées pour moi dans le roman parce que elle amène automatiquement, elle conduit automatiquement nos jeunes lecteurs à se dire que la guerre, c'est ça. C'est être menacé de très près, sentir sa vie en danger. Et moi, je voulais qu'il reste cette sensation-là de tout ce qu'ont vécu tous ces soldats sur le front, dans les tranchées, etc.
Et on l'oublie souvent, parce qu'on pense souvent aux gueules cassées quand on parle des conséquences de cette Première Guerre mondiale. Oui. Mais il y a ce syndrome de l'obusite. Oui. Qui a aussi laissé énormément de traces, oui, chez certains anciens combattants et qui était lié à ce que vous êtes en train de raconter, voilà, c'est-à-dire à ces bombardements constants.
Mais quand on a, comme moi, vécu une petite période, parce que mes grands-pères, pour l'un, il est resté un an, l'autre, il avait fait les 4 ans, de cette guerre, il n'en parlait pas. Les anciens combattants n'en parlaient pratiquement jamais. Moi, j'ai pas eu vraiment de confidence en direct de mes grands-pères. Il y en a un qui était parti, il avait 17 ans en 17, il est parti en 17 parce qu'il prenait pas les soldats avant. Et il est resté un an et il était passionné par la mécanique et il travaillait pour l'aviation. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'il y avait des combats aériens aussi en 14-18. Et il m'avait raconté qu'il réparait les avions qui revenaient avec du fil de fer. Et puis on essayait de remettre tant bien que mal l'avion au biplan avec ses ailes en toile pour que le pilote reparte.
Nous ne sommes pas très loin de chez René Fonck.
Ça m'avait profondément marqué, ça, parce que je m'étais dit, mais c'est fou, quoi, de repartir au combat dans des conditions pareilles. Et mon autre grand-père, lui, il avait été gazé. À un moment donné, il en avait gardé des séquelles physiques assez importantes, mais pas dramatiques au point du handicap. Mais la seule anecdote que je retienne de ce qu'il m'avait raconté, c'est que moi, j'adore les chevaux. J'aime ces animaux-là. Et un jour, je disais devant lui, j'aime les chevaux et je ne sais pas pourquoi personne dans la famille n'aime les chevaux. Et il m'a regardé, il m'a dit moi si. Il m'a dit moi j'étais dans l'Espaillie pendant la guerre et je m'occupais de mon cheval. Et il m'a dit bah tu vois, si tu aimes les chevaux, maintenant tu sais que ça vient de moi. Et c'est à peu près la seule chose que j'ai entendue. Mais ce sont des choses qui marquent profondément. Et on disait avec Isabelle l'autre jour, en voyant nos petits lecteurs nous poser des questions, que nous sommes heureuses de ça, de ce devoir de mémoire, en fait. Transmettre aux jeunes générations quelque chose par le biais tout de même d'une lecture distractive. On s'adresse à des enfants.
Mais justement, Isabelle, ce sont de jeunes lecteurs, donc j'imagine que les parents ne sont quand même, on peut le souhaiter, en tout cas ne sont jamais trop trop loin. C'est une lecture qui peut même se faire avec les parents, c'est peut-être même quelque chose que vous conseillez en tant qu'auteur. Et du coup, ça crée du lien, ça crée de la transmission, puisqu'on peut remonter comme ça de génération en génération, puisque finalement, on peut le dire, nous avons toutes nos familles quasiment ont été concernées, hein, touchées par ces événements de 14-18.
C'est ce que nous ont fait comprendre les enfants qu'on a rencontrés avant-hier et les enseignantes qui sont venues nous parler justement, qu'avec la lecture de ce roman-là et le fait que ce soit à hauteur d'enfant, ça a soulevé des questionnements aussi et oui, effectivement, les enfants se sentant concernés, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient eux aussi partie de cette histoire et que qui ne tenait qu'à eux d'interviewer encore leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents s'ils en avaient l'opportunité.
C'est l'occasion, là pour le coup on parlait de livre d'histoire, mais c'est livre d'histoire avec un petit H et un S finalement, et de rouvrir presque l'histoire familiale des uns et des autres.
Oui, le personnage de René, en fait, c'est mon arrière-grand-père à moi, qui n'était pas dans un régiment d'infanterie. Lui, il était soldat du génie et il s'occupait des transmissions. Donc il a lui-même rédigé beaucoup de carnets de mémoire qui n'ont jamais été édités à son grand regret. Donc là, voilà, il est un peu édité d'une certaine façon. Mais oui, on en a tous dans nos familles des témoignages comme ça, des photos, des objets.
Des carnets qu'on retrouve bien sûr, quelquefois ouais. En déménageant. Laurent, justement, nous sortons de toute une période de commémoration autour du centenaire de ce conflit, où il y a eu aussi beaucoup, à travers la mission du centenaire, beaucoup de travail de fait justement pour collecter ces souvenirs.
La grande collecte, oui.
Exactement. C'est peut-être encore un peu tôt pour finalement se rendre compte de ce que ça représente, ou est-ce que pour l'historien que vous êtes, ça peut représenter un matériau de travail très important et très intéressant pour les années à venir?
Oui, c'est la grande collecte, en fait, c'était l'objectif, hein, collecter un maximum de pièces physiques. Alors ça peut être des carnets, des objets d'art construits dans les tranchées, enfin absolument tous les supports possibles et imaginables, des documents iconographiques pour constituer une énorme base de données qui va prendre des dizaines d'années à être exploitée. Mais en termes quantitatifs, c'est assez conséquent. Il y en a pour au moins deux générations d'historiens pour les passer au tamis. Ouais.
Vous parliez tout à l'heure justement de l'histoire vue à travers le regard de ceux qui l'ont vécu. Là, c'est vraiment encore plus le cas.
Oui, tout à fait. Mais en fait, tout document d'histoire, c'est un point de vue par une catégorie de personnes sur son temps. Donc il faut tout le temps croiser un maximum de sources possibles. En tout cas, du point de vue de l'historien, c'est comme ça qu'on fonctionne pour essayer de les rendre plus neutres, les faits.
Et cette transmission familiale qu'on évoquait là, c'est aussi quelque chose qui vous touche?
Oui, clairement, oui. En fait, ça montre qu'on s'inscrit tous dans la grande histoire, en continu.
Parlons de Dumas avec Silène. Parce que moi, quand j'avais lu Adèle, c'est ça qui m'avait amusé. Parce qu'il y avait ce voyage dans l'histoire, mais qui est une histoire elle-même romancée, puisque c'est la reine Margot. Alors, c'est pas les Trois Mousquetaires, c'est un peu plus sérieux d'une certaine manière, dans le fond comme dans la forme. Mais Dumas reste quand même un romancier. On lui a suffisamment reproché, et avec sa pétulance, il avait su y répondre de forte manière. Mais c'est aussi quelque chose sur quoi tu t'es interrogé quand tu as démarré ce projet-là.
Oui, alors en fait, moi j'ai écrit Adèle avant 14-14, et il est paru après parce que malheureusement l'éditeur avec lequel je travaillais nous a quittés. Je suis rentrée dans la littérature avec peu de moyens. Alors quand j'ai fait de l'anticipation, là je viens de sortir Les Affamés, c'est l'anticipation pour adultes, c'est en n'ayant aucun moyen scientifique d'inventer un futur cohérent, si je le complexifie trop. Et quand je suis rentrée en histoire, c'est sans formation d'historien, mais avec une formation littéraire, par contre, assez épaisse. Et quelque chose qui m'a beaucoup intéressée en lisant Dumas, et tout ce qu'on en a dit, tous les reproches qu'on a pu lui faire, c'est que c'est une vision historique à une époque. Et que finalement, moi en écrivant, je repropose une autre vision historique à une autre époque. Et finalement, pourquoi pas m'appuyer sur la littérature. Et donc, dans le livre, je mens pas, elle est dans le roman, elle est pas dans l'histoire. Donc, les imperfections de Dumas, c'est pas grave, on les assume. Et moi, l'histoire, je l'ai connue comme ça, je l'ai connue par la littérature. D'autant, alors, en plus j'ai continué le projet avec Dumas parce que je l'aime bien, et puis en plus ça me fait marrer parce que je suis chez Bragelonne, donc Bragelonne, Castelmore, Milady et tout. Et dans les lettres volées, je raconte l'histoire de la fille de Madame de Sévigné. Parce que la petite histoire, c'est que moi j'ai dû lire les lettres de Madame de Sévigné un nombre incalculable de fois pour la Greg, et j'en avais ras-le-bol. Et je m'étais dit, si je laisse à Greg, j'écrirai l'histoire de sa fille, ça lui fera les pieds. Et je l'ai eu, et en plus je l'ai eu avec la dissertation Madame de Sévigné, que j'ai particulièrement bien réussi parce que je la connaissais quand même très bien. Et pour faire les lettres volées, j'ai lu Le Vicomte de Bragelonne de Dumas, et je me suis amusée avec ça. Alors, où est-ce que ça me semble intéressant? C'est que Sévigné, pendant longtemps, on l'a lu comme document historique. Les lettres, elles étaient lues parce que c'était des documents historiques sur l'époque et qu'on apprenait beaucoup de choses sur la façon dont les nobles voyaient, c'était pas bien de boire du chocolat parce que ça pouvait faire des fausses couches. Et elle raconte ça dans ses lettres, elle prévient sa fille, donc du coup on s'appuyait là-dessus. Ça a été plus tard seulement qu'on s'est mis à lire Sévigné pour l'aspect littéraire. Et c'est pas un roman, les lettres de Sévigné, c'est pas une œuvre qu'elle a faite et qu'elle a construite pour son aspect littéraire. Et en même temps, dans les lettres volées, c'est bien ce que je montre. Chaque petite lettre était un objet littéraire en soi, c'était son éducation, c'est comme ça qu'on écrivait à l'époque, elle essaye de l'enseigner à sa fille. Donc, moi je joue avec ça. N'ayant pas les compétences, finalement, je me dis, si, je les ai en littérature, donc jouons le jeu à fond et je fais un roman qui est issu d'autres romans. J'essaie de ne pas dire de bêtises historiques quand même.
Il y a un autre aspect sur Dumas, c'est que finalement, et on le voit bien finalement avec ce qui arrive à Adèle, c'est que c'est un auteur assez accessible.
Tout à fait. Alors ça, c'est très important dans mes ouvrages. Dans Adèle, j'ai commencé à le faire. J'ai mis des petits bouts de Dumas. Vous savez, un petit peu comme justement avec des élèves qui sont peu lecteurs, on leur donne une petite bouchée. Allez, prends une petite cuillère, puis tu vas voir, ça va pas si mal se passer. Puis après, peut-être que tu auras envie d'ouvrir le livre. Donc, il y a des petits morceaux de Dumas dans Adèle qui sont accessibles. C'est un peu plus compliqué que ce que j'écris moi, parce qu'il y a la langue, mais ils voient que c'est accessible. On l'a refait là dans Lune Rousse avec Paul Béarn, qui est notre dernier ouvrage commun. Ça se passe en 1846. C'est une histoire de loup-garou, donc il y a un côté fantastique, mais. Et forcément, pour écrire une histoire de loup-garou avec un renard, moi ce qui me vient, c'est le roman de renard, et puis la balade des pendus de Villon, et puis un morceau de Hugo, parce qu'on est en 1846, donc c'est important. Donc en fait, la littérature, elle s'invite dans mes romans. Je l'insère, je la mets, je pense que c'est une passation. Et pour leur montrer que c'est possible, en fait. Ils peuvent lire une page de Hugo, puisqu'elle est là, dans le livre. Donc après, la deuxième, elle sera peut-être plus facile à digérer.
Laurent, ce lien entre histoire et littérature, et finalement, tous ces aspects, on va dire, je reprends le mot un peu ludique, pour arriver à l'histoire, et parce que parfois le matériau historique peut être un peu aride, parce que c'est aussi du travail scolaire, donc c'est pas toujours très amusant, on a toujours envie de faire un peu autre chose. Mais voilà, tous ces aspects-là, tous ces livres qui finalement... ouvre l'esprit, aiguise la curiosité de ces jeunes lecteurs. C'est aussi une démarche à laquelle vous êtes sensible, vous l'historien ?
Alors, très très sensible. Pour la petite histoire, il y a un projet de recherche de l'Université de Lorraine qui concerne deux auteurs de Metz qui datent de la période qui situe juste un tout petit peu avant 1500. Et c'est un parcours commun aux enseignants et chercheurs de littérature et d'histoire. C'est tout nouveau, en fait, ce type d'association. Et c'est exactement ce que vous avez dit. On prend le matériau historique et en même temps, c'est un matériau littéraire qui était méconnu ou qu'on sous-estimait jusque-là. Et on essaye d'en faire un objet d'étude global en croisant nos approches, nos regards. Donc on n'est vraiment pas très loin de votre présentation, en fait, de votre propre travail.
Et sur Dumas, un avis? Plutôt le lire vraiment comme un romancier plus que comme un historien?
Non, c'est une façon pour... Enfin, Dumas, il a reconstruit l'histoire à sa sauce, en fait. Et ça aussi, c'est intéressant. Il a créé un décalage par rapport à son époque. Donc, en soi, c'est aussi une source historique.
Enfin, tout le monde croit que les Ferrets, maintenant, c'est sous Louis XIII, alors qu'en fait... C'est une autre histoire, hein, d'une certaine manière, qui a été transférée à cette époque. Donc, il faut quand même être un petit peu prudent aussi.
C'est vrai. Je voulais vous poser une question à toutes les quatre. C'est quand vous avez choisi vos sujets, en fait, et puis, votre façon d'entrer dans l'histoire de façon détournée, vous avez fait ce choix comment? C'était l'objectif... Enfin, vous aviez un objectif qui vous portait, par exemple, faire découvrir une autre époque ou... comparer une époque ancienne avec nos préoccupations contemporaines, un peu de tout ça.
Alors, c'est vrai que j'ai choisi l'époque et le lieu que je préférais le plus, j'ai pu s'étudier, mais vraiment au départ, c'est une envie d'écrivain, c'est d'écrire une bonne histoire avec un univers, un monde en fait qui a disparu en final en 1258 quand les Mongols ont pris Bagdad, il y a tout un monde qui est parti. Et je me suis dit, ce monde... avec sa truculence, sa couleur, son originalité qu'on connaît très très mal, surtout en Europe. J'avais envie effectivement de le faire revivre parce que c'était aussi prétexte à des tas d'aventures passionnantes. Donc vraiment au début, c'était, je me suis dit, là, tu connais bien la période, tu as toute la documentation historique, tu as lu tout ce qui pouvait s'écrire, tu peux en faire une bonne histoire. Et la mettre d'aplomb, en respectant autant que faire se peut, j'y tenais beaucoup, la vérité historique. C'est-à-dire que je vis toujours dans l'erreur de l'erreur historique, dans la peur. Mais vraiment, c'est ça. C'est des personnages et un monde que j'aime bien. Voilà.
Moi, avec les quatre romans historiques, il y avait un petit programme personnel de parler de grands moments qui me semblaient importants à voir, en effet, dans l'histoire. La Saint-Barthélemy, les deux guerres mondiales, et puis le moment où Louis XIV prend le pouvoir, le moment de la bascule où il fait arrêter Fouquet, parce que on le voit en littérature particulièrement, je ne connais pas aussi bien l'histoire, mais c'est un moment où les femmes ont beaucoup perdu. Je pense que Sévigné ne voulait pas ce destin pour sa fille et elle ne l'a pas élevé pour ça. Elle l'a élevé avec les précieuses, avec une certaine liberté. Et puis Louis XIV arrive et puis on retire les termes de autrice et philosophesse des dictionnaires. Et puis les femmes, elles arrêtent d'écrire. Alors pas toutes, hein, on en a encore beaucoup, mais elles deviennent beaucoup moins importantes. Il y a eu vraiment, en ridiculisant les précieuses, Louis XIV a fait beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal à la littérature féminine. Donc quatre moments importants. Après, c'est donc des propos qui sont derrière, et je vais prendre l'exemple de Lune Rousse pour répondre plus précisément à cette question. C'est qu'en fait, quand il y a un thème qui me tient à cœur, c'est quelle époque historique, à quoi ça correspond. Dans Lune Rousse, avec Paul, on avait envie de parler de l'émancipation de deux jeunes filles. Or, il fallait choisir un moment dans l'histoire. C'est une commande, hein, parce que c'est dans l'univers des loups-garous de Tiercelieu, donc il fallait aussi qu'on choisisse. Et on s'est dit, 1846, parce que la révolution industrielle, l'exode rural, c'est aussi le moment où on a des femmes qui vont pouvoir, parce qu'elles elles ont un travail, acquérir un tout petit peu plus d'indépendance. Et donc, l'héroïne, elle veut quitter Tiercelieu pour avoir du boulot à la ville. C'est à côté de Paris, Tiercelieu. Et puis, dans le village, il y a une femme qui est veuve, hein, et qui, du coup, a la liberté, reprend la scierie du village. Et qui, d'ailleurs, fait évoluer un petit peu le salaire de ses ouvriers. Donc, le choix de 1846, il est vraiment fait parce que le thème nous amène à faire ce choix-là, qu'en 1846, on est juste avant la révolution de 48, c'est important. Et puis, c'est une année où il y a eu une sécheresse en plus, donc ça nous va bien dans l'histoire. Donc, voilà, le choix historique est motivé beaucoup par le propos qu'on veut tenir aussi.
Oui, moi, le choix, c'était la contrainte, c'était lié au travail, au projet de visite. C'était vraiment c'était ça l'objet de la commande, en fait. Hein. On voulait créer un produit qui corresponde à une période sur laquelle on travaillait.
Moi, c'est quand j'ai visité le château de Guédelon en 2002. Il y avait juste la base des tours et des courtines et que j'ai eu la sensation de faire un voyage dans le temps moi-même en entrant sur ce chantier médiéval où tout le monde travaillait exactement avec les techniques du XIIIe siècle. Il n'y a que 5 choses modernes hein, sur le chantier, les chaussures de sécurité, les lunettes de sécurité, les casques, les cordes modernes et le boulonnage des échafaudages. Tout le reste, Guédelon, est exactement construit comme au XIIIe siècle. Et c'est pas souvent qu'on a une... Quand on est amateur de science-fiction et qu'on en écrit, c'est pas souvent qu'on a l'impression de faire un voyage dans le temps. Et moi, j'ai eu une première fois... La première sensation de science-fiction que j'ai eue, c'est quand j'ai marché pour la première fois sur un tapis roulant. C'est-à-dire que j'avançais à mon rythme normal de marche et je voyais les choses défiler autour de moi plus vite. Et je me suis dit, mais ça, c'est de la SF. Et quand je suis rentré sur le chantier, sur le chantier de Guédelon et que j'ai vu tous ces gens travailler exactement comme au XIIIe siècle, habillés pareil, etc., je me suis dit, mince, mais c'est un truc de SF, ce truc. Alors les gens qui étaient avec moi m'ont dit, mais non, c'est pas science-fiction, c'est historique. Je dis, oui, justement.
Laurent, et ça sera la dernière question de cette table ronde. Est-ce qu'on arrive, quand on est historien, à prendre simplement du plaisir à lire des romans historiques, ou est-ce que le côté professionnel reprend toujours le dessus à un moment donné ?
Non, on débranche et on prend purement plaisir à lire des romans.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints et d'avoir rejoint les autrices présentes sur cette scène pour nous apporter une caution, j'allais dire scientifique d'une certaine manière, en tout cas historique. C'est des rencontres, je sais que Stéphanie Nico tient beaucoup à ce que ces rencontres se développent entre interdisciplinaires, on va dire, et que ces regards se confrontent entre ceux qui écrivent de la fiction et ceux qui, au contraire, font le travail de nous expliquer ce qui a été notre passé et peut-être aussi de relire notre présent à travers ce passé, parce que vous le voyez, il y a matière à échange, il y a matière à enrichissement réciproque, et c'est un vrai plaisir. Et puis pour nos auteurs présents, vous le voyez, on a aussi des tranches d'âge différentes, des publics différents, des périodes historiques différentes, des genres différents. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur dans tout ça, je ne sais pas comment on va pouvoir faire, mais en tout cas merci à toutes les quatre, et lisez les romans de ces romancières, parce que vous allez beaucoup beaucoup voyager dans le temps, dans l'espace, et vous allez découvrir de magnifiques personnages également. Merci beaucoup, je vous invite à les retrouver sous la bulle du livre, sauf Sandrine, parce que nous on part sous un autre Magic Mirror et on va parler fantasy historique.